magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Autour de la question à Dakar.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver ici dans la chaleur de Dakar pour nous interroger sur le monde qui vient à partir du continent en prenant du recul face au grand large. Nous sommes dans le quartier de Fan Hoc sur le toit de l'hôtel Jolof, l'un des lieux investis par les ateliers de la pensée initiés par nos invités, l'économiste et écrivain Félouine Sarr et l'historien et philosophe Achille Bembe. C'est la deuxième édition de ces rencontres fertiles et indisciplinées entre penseurs, philosophes, économistes, universitaires, artistes, écrivains, chercheurs et chercheuses du continent et de la diaspora réunis pour défricher tous les terrains du possible et penser l'Afrique-monde. Le monde depuis l'Afrique, depuis Dakar, où nous sommes, dans ce studio improvisé par Marc Fichet autour de la question « Pourquoi des ateliers de la pensée à Dakar ?» Bienvenue. Bonjour Achille Bembe.
Bonjour.
Bonjour Félouine Sarr.
Bonjour.
Merci Félouine de nous accueillir à Dakar. C'est un peu votre ville avec Saint-Louis, bien sûr, puisque vous naviguez entre les deux. Comment vous présentez à nos auditeurs qui n'ont pas encore la chance de vous connaître? Vous êtes économiste, écrivain, éditeur et tant d'autres choses encore. Je me contenterai de citer Afrotopia, votre essai paru aux éditions Philippe Ray, une afrotopie qui devient un peu réalité pendant ces quelques jours d'atelier de la pensée à Dakar. C'est un peu ça l'idée, Félouine?
Oui, oui, je le crois. Je crois qu'on a peut-être ce qu'on a pu envisager l'année dernière, c'est de mettre en pratique un certain nombre d'idées et d'intuitions que nous avions. Après une discussion avec Achille, il nous avait semblé que quelque chose était en train d'émerger et chercher à se dire au niveau de la pensée critique et de l'expression artistique afro-diasporique. Donc on s'est dit qu'on allait créer un espace pour faire éclore, mettre en tension et mettre en débat toutes ces idées. Et je pense qu'on a eu raison de le faire parce que la réalité nous a démontré qu'il y avait une vraie parole alternative qui cherchait à jaillir et qui voulait repenser les cadres à travers lesquels nous exprimions un certain nombre de choses.
Écrire l'Afrique-Monde, hein, d'ailleurs, ouvrage essentiel, fondamental, paru aux éditions Philippe Ray, qui a été tiré de ces rencontres, de ces ateliers de la pensée de l'année passée. Achille Bembe, vous êtes historien et philosophe né au Cameroun. Vous êtes aujourd'hui, on peut le dire, un des plus éminents penseurs du post-colonialisme, internationalement reconnu. Vous enseignez aussi bien aux États-Unis, à Duke University, qu'à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, on peut citer les deux derniers, Critique de la raison nègre et Politique de l'inimitié aux éditions La Découverte. Pour vous aussi, Achille, il est urgent de penser le monde et aussi de faire entendre toutes ces voix afro-diasporiques qui développent, comme l'a dit Félouine, une pensée critique.
Je crois que Félouine avait absolument raison. Les ateliers doivent leur inspiration en très grande partie à sa réflexion et à sa pensée. Et l'urgence, elle est là. Le monde est en pleine turbulence. Il y a, comme il l'a dit, une énorme demande d'intelligence, d'analyse, dans le but de, justement de pouvoir peser sur les évolutions en cours. Mais en même temps, il y a un mépris de la pensée qui est partagé à la fois en Afrique et ailleurs. Un mépris de la pensée qui est partagé par toutes sortes de forces. Et donc, l'idée, comme l'a dit Félouine, était d'ouvrir un espace où nous puissions faire corps. Nous avons des carrières individuelles, certaines sont tout à fait remarquables, mais il nous faut faire corps, énoncer une parole, une série de paroles affirmatives, confiantes en elles-mêmes, d'une manière telle que personne ne puisse se lever et dire « je n'ai pas entendu ». C'est un peu ça l'horizon.
Entendre vos voix plurielles à partir du continent, parce que le continent a quelque chose à dire et à nous dire à tous. En ce moment précisément, pourquoi les clés ou les pistes pour un avenir commun possible sont aussi et d'abord peut-être sur le continent?
Je pense que le continent a un triple avantage. Et le premier, c'est d'être le lieu des civilisations humaines les plus anciennes. Donc il a une longue historicité. Le second grand avantage, c'est qu'il est jeune. Il est en même temps vieux et jeune. Donc il a l'avantage de la vitalité de la jeunesse et de l'expérience de la longue durée. Et le troisième, je dirais, c'est qu'il n'est pas très engagé dans l'aventure industrielle du XXe siècle. Donc ça veut dire qu'on peut y faire différemment et faire autrement. Donc il peut être un espace de laboratoire, de projet et de projection. Je pense que lorsqu'on prend tous ces trois éléments ensemble, il a des choses à dire sur ce monde, sur le monde dont on veut renouveler la genèse et que l'on veut reconstruire sur d'autres bases.
Autour de la question, pourquoi des ateliers de la pensée à Dakar? Je pense qu'on commence à comprendre. Je propose d'écouter un jeune vieux, un vieux jeune, un autre éminent philosophe, évidemment présent à Dakar. C'est bien sûr Souleymane Bachir Diagne. Son intervention dans les ateliers de la pensée à Dakar portera sur le vitalisme et les politiques du vivant. On écoute Souleymane Bachir Diagne.
Regarder vers l'avenir, c'est précisément être vivant, faire comme tous les systèmes vivants qui sont toujours orientés vers une finalité plus haute, la finalité de demain. Et comprendre, et c'est tout le sens de la pensée prospective, comprendre encore une fois que le sens doit nous venir du futur et non pas nous pousser par derrière. Les actions à mener sont des actions qui ouvrent le futur que l'on voudrait inventer et non pas des actions qui sont dictées par un passé lui-même révolu.
Qui veut réagir à ces propos du philosophe Souleymane Bachir Diagne? Félouine, Achille.
Oui, généralement, Bachir aime bien l'idée qu'il faut éviter ce qu'il appelle un entêtement rétrospectif, que nous ne devons pas être guidés par les morts. En économie, il y a une idée de ce qu'on appelle les anticipations forward looking. Les gens agissent aujourd'hui en fonction de l'anticipation de l'avenir qu'ils ont. Si je suis un entrepreneur, je décide d'investir dans le temps présent. Si j'anticipe que dans le futur, je pourrais vendre mes produits, etc. Et tout le monde, et donc en principe, il y a cette grande dichotomie entre ceux qui fondent les décisions présentes sur le passé, comme s'il allait se répéter de manière homothétique, ou ceux qui envisagent l'avenir et une fois qu'ils l'ont envisagé, agissent dans le présent pour le faire advenir.
Et c'est peut-être cette deuxième solution qui serait la plus intéressante.
Ben oui.
Achille Bembe, vous êtes un grand penseur du post-colonialisme. Je ne sais même pas quel mot il faut employer aujourd'hui, mais vous partez quand même aussi d'un constat. On en est où aujourd'hui? Demain, nous parlons de décoloniser la pensée. On en est où aujourd'hui par rapport à tout ça, ici sur le continent?
On en est à un point où il faut revenir, il me semble, à deux choses. Un, l'Afrique fait partie du monde. C'est-à-dire qu'il est impossible d'imaginer le monde sans l'Afrique. Pour toutes sortes de raisons, je reviens à celle qu'évoquait Félouine.
Il le sera encore moins possible de l'imaginer dans le futur, hein. On est bien d'accord.
Justement. Et donc, il faut congédier une bonne fois pour toutes l'idée selon laquelle l'Afrique appartiendrait à un hors-monde. Deuxièmement, le futur dont parlait Souleymane Bachir Diagne il y a un instant, ce futur, il sera partagé ou il n'adviendra absolument pas. En cette ère où l'ici et l'ailleurs sont enchevêtrés, toutes les échelles sont imbriquées les unes dans les autres. Ère donc planétaire où la question du vivant, c'est-à-dire du vivant humain, du vivant non humain, du vivant à venir, du vivant passé, toutes ces questions, elles sont devant nous. Et l'hypothèse centrale qui gouverne notre expérience ici, c'est effectivement qu'il y a là des enjeux absolument nouveaux où les voies africaines sont nécessaires. C'est ainsi, du moins, qui me frappe le plus pour le moment.
Félouine Sarr, dans votre essai Afrotopia, vous dites « l'Afrique n'a personne à rattraper ».
Oui, je sais que c'est une proposition qui a un peu dérangé, bousculé, et je trouve même intéressant. Ça veut dire que nous sommes toujours dans une perspective évolutionniste et comparatiste. Et les aventures sociétales, les histoires singulières, les régimes d'historicité ne se comparent pas. Selon quel terme on comparerait la dynamique d'une société? À partir de quel moment on démarre? Les sociétés ont des histoires singulières qui sont différentes, elles ont subi des chocs différents, elles sont à des moments différents de leur évolution historique, elles sont incommensurables, on ne peut pas les comparer. Mais ça veut juste dire qu'on a estimé que ce qui s'est déployé en Europe occidentale comme forme d'organisation sociétale à un moment donné devait être le benchmark, pour parler comme les Anglais, la référence absolue vers laquelle toutes les sociétés devraient tendre. Donc on a nié la diversité et la pluralité.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est peut-être temps d'arrêter de nier cette pluralité? C'est qu'on voit que ce modèle-là ne marche pas.
Non, il a marché.
Il a marché.
Il s'épuise et il est en train d'aller vers ses limites. Et les plus lucides de ce côté-là de la rive se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer. Et on ne peut pas continuer à le proposer comme un modèle, alors que c'est une forme inachevée. C'est une forme qui doit se renouveler elle-même. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas tant ça, c'est... L'essentiel, c'est d'accomplir ses potentialités au mieux, les plus heureuses. Ce n'est pas de ressembler à une forme ou à un visage de l'expérience humaine. nous soyons heureux.
Au niveau individuel comme au niveau collectif,
au niveau
ce que vous dites.
Oui, donc chacun doit accomplir son potentiel et l'accomplir au mieux de manière heureuse. Et ça, ce n'est pas le régime de la course, c'est le régime de la croissance intérieure, c'est le régime du chemin, etc. etc. Et c'est juste cette lecture que nous devons congédier absolument pour tous. Et lorsqu'on dit ça, on ne dit pas que le continent non, n'a pas de défis à relever. Non, il a à les relever, mais il n'a pas à courir, il n'a pas à se hâter, il n'a pas à être victime d'une cadence infernale extérieure. Il a à le faire dans sa temporalité et dans son rythme. Et en plus, lorsqu'on est en retard, qui fixe la date et l'heure du rendez-vous? En retard par rapport à quand et comment? Qui fixe la durée nécessaire pour l'accomplissement?
Autour de la question, pourquoi des ateliers de la pensée ici à Dakar? On reste dans cette temporalité sur le continent. Vous avez souhaité écouter Ablaye Sissoko, Felwinsar, extrait de son dernier album avec Simon Goubert. On écoute Vieux Sage.
Dakar, 92 FM.
Que va a decir en el año? Que va a decir en el año? Cambano betambila, jauja tabag. Que va a urica, a coge cambano. Cambamo mamui. A co cambano me kumale y telema. Kambano mamoy, muna kambano, kambano ya koma fili, ako jaliba famu, ako si ubendi mina, ntewa bendi mina, ku ubendi mina, jagalo nata, kambano. Kambano kaiko e alfante hauja taleba
Keba kaiko Momo na nanya, momo na tanya Mete sirinja ntobarin laftale muyende ma balungu kaiwasu
Kambano kaiko Ni left on sambala yenjona Ako fente mbulo na jifoto Bari ni left on seduwa ye Kambano kaya koma solo ila duwa ye Ni left on tala inyanta njora Ninduni ya yele mataleba Fuhada mati wolo fawu yele mataba Nawo 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 dindu ya na kilindi Nawo nawo dindu ya
Le vieux sage d'Ablaye Sissoko sur RFI, ici à Dakar, aux ateliers de la pensée. C'est votre choix, Felwinsar, mais c'est aussi celui d'Achille Bembe, j'ai l'impression. Hein.
J'adore sa musique. Et dit tout ce que Felwin disait tout à l'heure. Le rythme qu'on décide soi-même de suivre, le chemin également, tout est là dans ce geste sonore. Absolument magnifique.
Et les vieux sages peuvent inspirer les futurs jeunes sages. Vous êtes aussi musicien, Felwinsar.
Oui, et la musique est une très belle archive parce que tout ce que la musique recherche, c'est la beauté et l'harmonie. Et c'est une archive qui fait la synthèse de tout ce qu'elle reçoit. Là, Ablaye rencontre des musiciens de jazz. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de civilisation supérieure. Chacun apporte son histoire musicale et on met ensemble. Et ce qui tranche, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus harmonieux. Et c'est la vraie synthèse, c'est la synthèse absolument éclairante et lumineuse. Et toute l'archive musicale, elle est ainsi. Toute l'histoire des circulations, ce que dit Achille dans ses bouquins, des recompositions, des synthèses culturelles, se font ici dans un espace où il n'y a pas de domination et où il n'y a pas de colonialité. Et lorsque vous écoutez l'archive musicale, vous avez une image de ce qu'une vraie rencontre peut être. Et toutes les musiques disent ça, en fait.
Voilà pourquoi aussi, dans ces ateliers de la pensée, vous vous laissez une part importante aux artistes, aux écrivains, aux pièces de théâtre. Enfin, c'est vraiment une plateforme indisciplinée, pluridisciplinaire. Et l'imagination doit être au pouvoir. Pourquoi ? Pour aussi, comment dire, adoucir un petit peu, peut-être, les penseurs que vous êtes, ou un côté peut-être trop intellectuel, Achille Bembe.
Disons que la pensée s'exprime sous diverses formes. Dans des sociétés comme les nôtres, la pensée se donne également à voir une dimension performative de l'acte de penser. Et il n'y a pas d'acte de pensée qui ne puise sa force quelque part d'un gisement d'imagination.
L'imagination au pouvoir.
Comme gisement de potentialité. Et en Afrique en particulier, ce que nous sommes capables de devenir, ce sont ces arts, ces disciplines de l'imagination qui, à mon sens, savent l'exprimer plus que toute autre forme. Et donc, ces disciplines, ces gisements exigent d'aiguiser la vue, le regard, d'être attentif au silence, d'écouter dans un monde où tout nous pousse à ne plus écouter. Nous ne savons plus écouter. Je crois que ça demande cette espèce de patience en tant que méthode et cette mise à disponibilité de soi-même qui permet justement la rencontre. Mais une rencontre dans laquelle ne se joue pas le pouvoir, où se jouent, disons, des horizons beaucoup plus vastes, la beauté, l'entente, l'amour, et ainsi de suite.
Vous allez, Félouine Sarr, travailler dans une table ronde sur la question du lien qui se joue peut-être autrement ici et là, pour le coup, le continent africain, le Sud en général a probablement à apprendre au Nord.
Elle a énormément de choses à dire et à apporter. Nous vivons une crise de la relationnalité. Nous vivons une crise de société qui se délite, une crise de la liaison. Et lorsqu'on observe le lien ou la relation, on peut se rendre compte qu'elle est au centre de tout. Être, c'est déjà être relié. L'économie, c'est un ensemble de relations, l'échange, la production. Le politique, c'est comment on articule la pluralité, comment on crée la communauté. La question écologique, c'est une question de la relation avec les existants et le vivant. Et pour moi, une civilisation élevée, c'est une civilisation qui produit des relations de qualité entre les différents acteurs. Ça doit être le critère. Donc, ça veut dire le soin. Ça veut dire comment faire en sorte que la relation soit mutuellement nourricière, vivifiante et féconde. On peut articuler des relations qui sont négatives. La guerre en est une. On peut articuler des relations qui sont positives. L'empathie, l'amitié, la convivialité, le soin. Et c'est un choix à faire. Et pour moi, ça, c'est un choix civilisationnel. Et on peut lire le progrès d'une société humaine dans la mesure où elle sait articuler ou produire des relations de qualité entre ses différents membres.
Il y a encore du chemin à parcourir pour ce progrès-là.
Mais ces sociétés ont appris à tisser et à retisser le lien de manière extrêmement articulée et complexe. Et elles ont appris à intégrer la différence. Et je pense que de ce point de vue-là, elles ont énormément de choses à apporter.
Il suffit de sortir de notre studio d'occasion et regarder ce qui se passe autour de nous.
Ici à Dakar.
À Dakar. Je suis sorti ce matin. Je suis allé acheter ma belle étoffe
magnifique,
que les auditeurs ne peuvent malheureusement pas voir.
Rouge et jaune, on peut leur dire que c'est... Ça vous va bien, très bien.
Tout à fait. Mais ce qui m'a frappé, j'ai vécu ici à Dakar, j'y reviens assez régulièrement. D'abord, beaucoup de gens sont au travail. Ils sont toujours en train de réparer quelque chose qui soit a été brisé, soit a été déchiré, et ainsi de suite. Et c'est tout à fait frappant. Ça fait partie de la culture de tous les jours.
De réparer les choses, de réparer les liens. Je propose de continuer à nous réparer ici, à Dakar, en écoutant Richard Bonnat, Bisso Baba, votre choix à tous les deux, Achille et Félouine.
Dakar, 92 FM.
Itande punya bon sona munya nasango Tete lo ba moy abodi ba pon sima Denje tabobe etu malonto bimbu Nimba kwa vuba mwende muni ya majibongo kwande wani penya penya na tena wokoba lo sento lambo wenge lo mende singa miango Abona yuma lo sengi pon Nipon Nyango mititi bembo pa Jidu Nipon Namala Nipon Nawa Umba Olunga Tete mona sori benga Mamba Dinyaka na manyolo lendendolo Mamba Benbe jedi ba mwene kumbomba Mamba Bimene leye biso lambo nuku Kutura flanga kungone Ndali tiuriru Kutura flanga kungone Ndali tiuriru
sur RFI, autour de la question pourquoi des ateliers de la pensée ici à Dakar où nous sommes sur la terrasse de l'hôtel Diolof qui surplombe la ville en compagnie de l'historien et philosophe Achille Bembe et de l'économiste et écrivain Felwine Sarr, les deux initiateurs de ces ateliers et de ces nuits de la pensée à Dakar, deuxième édition de ces rencontres fertiles et indisciplinées pour défricher le monde qui vient à partir du continent pour penser et écrire l'Afrique-monde mais aussi l'écouter, écouter le monde depuis Dakar. Ambiance signée Monica Fantini sur RFI.
Dakar, au départ des cars rapides.
Écoutez le monde, au départ des cars rapides, nous voilà déjà en route pour tracer de nouveaux chemins, j'ai envie de dire, ici sur le continent, pour écouter, faire entendre d'autres voix, ressentir aussi cette ambiance, cette énergie des villes africaines comme Dakar où nous sommes, ou comme Johannesburg où vous enseignez, Achille Bembe. C'est en prendre le pouls en fait que d'entendre comme ça une ville qui vit et qui vit autrement que ce qu'on peut imaginer d'ailleurs.
Oui, sans parler de Lagos, cette espèce de mégalopole qui au fond ne cesse de s'accroître et dont dans 15-20 ans, personne ne sera en mesure de délimiter exactement les frontières. Au fond, ce à quoi on assiste, c'est à une urbanisation absolument accélérée dans les pays africains, une sorte d'urbanisation qui est tout à fait singulière dans l'histoire de l'humanité. Elle n'emprunte absolument pas les trajectoires que l'on a observées en Occident, où la ville était au fond le résultat, la conséquence d'un processus d'industrialisation. Ici, nous avons des villes qui pour la plupart sont la conséquence d'un processus d'échange commercial qui est très typique au fond de notre histoire. Une histoire d'échange.
Une histoire africaine, une histoire d'échange. Hein.
Une histoire de route.
De migration, de mobilité,
de circulation, de gestion de l'hétérogénéité. S'il y a quelque chose que l'Afrique apporte au monde, c'est un énorme savoir sur la manière de gérer la multiplicité.
De quoi nous inspirer ? Vous dites aussi, Félouine Sarr, que l'homo africanus, hein, pour l'appeler ainsi, n'est pas l'homo economicus, ou est une autre forme d'homo economicus. Oui, ça, on le découvre dans les villes africaines.
Oui, je le pense. Mais je pense même que l'homo tout court, ou l'humain tout court...
N'est pas un homo economicus.
Quoi, et que le libéralisme ou la pensée économique classique du 19e siècle a voulu réduire l'homme à un être rationnel, ou utilitariste, où la logique prédominante qui était à l'œuvre, c'était toujours de maximiser son plaisir, son utilité, etc. À l'intérieur des individus, plusieurs logiques sont à l'œuvre, plusieurs types de rationalités, des rationalités du sens, des rationalités du don et du contre-don. Et probablement,
à l'intérieur de chaque individu,
oui,
de chaque société aussi,
oui,
hein, on peut dire comme ça.
Et de chaque individu, et probablement si on a envie de saisir l'agir humain, on doit s'ouvrir à d'autres espaces qui ne sont pas que la logique utilitariste, économiciste. La psychologie, elle est absolument importante, la culture et tous les espaces de production de sens qui font que les individus choisissent en fonction de plusieurs critères. Et la science économique la plus classique a quand même appris et compris qu'elle devait élargir son point de vue. Et le problème, c'est que l'économie sur laquelle nous nous fondons se refuse à intégrer la multiplicité de ces ordres de rationalité-là dans sa vision du chose. Je dirais.
Et comment, depuis le continent, nous aider à intégrer justement cette multiplicité ? Est-ce qu'il y a des pistes ou est-ce qu'on est quoi, en train de les chercher ?
Les formes d'économicité qui ont cours, celles que nous voyons et que nous appelons de manière très inadéquate économie informelle, ce sont des processus qui non seulement font appel à la production et à l'échange, mais à l'intérieur de la production et de l'échange, il y a une rationalité de la relation. Il y a une rationalité de la redistribution. Il n'y a pas que le profit immédiat. Et ça enchasse beaucoup d'éléments qui ont trait au social. On produit aussi des échanges de qualité dans l'acte d'échange. Et donc il n'y a pas que la finalité purement, je dirais, mécanique et comptable qui est importante. Et cette forme d'économie-là, c'est une économie intégrative qui se pense au cœur de la société et au cœur des relations humaines. Et c'est vers ça que nous évoluerons le jour où nous n'aurons plus de banque ni de monnaie et que nous devrions refonder une économie en dehors du capitalisme. Et ce temps-là arrivera. Et je pense que nous l'expérimenterons déjà donc,
au quotidien, ici, sur le continent africain. Alors comment justement se rendre compte de tout ça ? Comment relancer à partir d'ici, à partir du continent africain, une pensée critique ? Comment décoloniser les esprits ? Ça sera notre sujet de demain. Mais je propose déjà d'écouter ce que nous en disait sur les ondes de RFI la philosophe et journaliste Séverine Kodjo-Granvaux, basée à Douala au Cameroun et évidemment elle aussi présente dans ses ateliers de la pensée ici à Dakar.
Décoloniser les savoirs, c'est peut-être aussi redonner de la place aux émotions et en tout cas montrer, c'est ce que j'ai tenté de faire en parlant de l'estime de soi.
Oui.
Et je voulais montrer que l'estime de soi, elle est importante, donc c'est quelque chose qui relève de l'ordre du sentiment, de l'émotion, que c'est important aussi pour la production conceptuelle. Et décoloniser les savoirs, c'est aussi montrer que la raison n'est pas seule, mais qu'elle se construit aussi et qu'elle est accompagné des émotions. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, à un moment donné de l'histoire, des hommes et des femmes revendiquent une pensée indisciplinée, une pensée transgressive ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un sujet ose s'affirmer, mais s'affirmer contre toute une tradition de sa propre discipline. Pour le faire, je crois qu'il faut aussi avoir une certaine estime de soi, savoir que la parole qu'on a portée, qu'on porte avec nous, comme la culture qu'on porte avec nous, sont des choses de valeur et que je peux faire sens.
Refaire sens, redonner du sens, retrouver de l'estime de soi, faire place aux émotions. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Séverine Kodjo-Granvaux, Achille Mbembe ?
Je crois que Séverine a absolument raison. Tout comme Félouine tout à l'heure, lorsqu'il émettait ses commentaires sur l'économie. Au départ, la discipline économique, au fond, est une science des émotions. Et ce n'est que progressivement
qu'elle... On l'a bien oublié, hein ?
Oui, tout à fait. On parle d'économie politique, économie morale, des sentiments, théorie des sentiments. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est que progressivement, je crois que tout ce contract devient davantage abstrait et le calcul devient la mesure de tout, y compris de la valeur. Il n'y a pas que le calcul, il y a aussi le don. Les êtres humains ne sont pas que des êtres de raison. Sinon, comment expliquer que dans certaines situations assez récentes, ils votent contre leurs propres intérêts objectifs? Et donc, il faut élargir la palette du raisonnement. Il y a plusieurs types de rationalité qui sont à l'œuvre. Et c'est cette multiplicité, une fois de plus, qu'il s'agit de peser et de gérer.
Sur le continent, Félouine Sarr, on parlait de multiplicité. J'ai l'impression qu'il s'agit vraiment de multiplicité quand on parle des valeurs à promouvoir. Il y a la question des sentiments, il y a d'autres valeurs que la raison. Et c'est aussi, Achille parlait de réparer, c'est aussi une multiplicité quoi, de possibles à ouvrir et comme si on s'était fermé tout ça, ou comme s'il n'existait pas, c'est possible.
Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on prend le monde et la réalité et qu'on la réduit à des catégories conceptuelles, on oublie qu'en fait, le monde déborde les catégories conceptuelles et que le monde ne se laisse pas emprisonner dans un langage aussi savant soit-il. Et la réalité en elle-même, elle est profusion. Et je pense qu'il y a des sociétés qui ont saisi le cours de la profusion de la réalité dans sa naturalité et qui n'ont pas tenté de l'enfermer dans des boîtes conceptuelles qui étaient censées les limiter. Et dans ce que Séverine dit, On est dans un régime qui a surpondéré le discours, le logos, la raison, alors qu'il y a une épistémologie du sensible, que le sensible est absolument fondamental et qu'il faut la faire. Et qu'on est aussi dans des espaces qui ont été, dont les productions de sens ont été minorées, ont été dévaluées. Donc, ce qu'on appelle l'injustice épistémique. Et ces sociétés-là.
Pour toutes les sociétés du Sud, on peut le dire comme ça.
Pour toutes les sociétés du Sud. Et pourtant, elles avaient des gisements de sens qui produisaient de l'opérationnel, qui produisent de l'effectif dans le réel, mais qui, d'un point de vue intellectuel, ont été non catégorisés ou ont été relayés dans de l'impensé quand ces productions-là n'étaient pas dénigrées.
Et cet impensé-là, on a vraiment besoin de le penser aujourd'hui.
Parce qu'il y a un épuisement des paradigmes et on a besoin de toutes les archives et de tous les gisements de sens du monde. Les mondes africains, les mondes asiatiques, les mondes indiens ont produit énormément de choses qui sont fondamentales et qui nous aideront à relever nos défis et à apporter des réponses si nous acceptons d'élargir le regard et de sortir de la petite île qui est l'Europe occidentale et de considérer que le monde est beaucoup plus vaste. Et ça va même au-delà de la revendication, c'est un argument, je dirais, logique. Nous avons un patrimoine de possibilités beaucoup plus large et nous devons l'explorer.
Pour notre humanité, autour de la question pourquoi des ateliers de la pensée ici à Dakar, on continue de défricher de nouveaux chemins dans tous ces patrimoines pour le monde qui vient en écoutant Oasis Diop, votre choix à tous les deux. Let it be sur RFI.
Yeah.
Oasis Diop sur RFI, Let It Be, nous voilà vraiment dans le sensible, Félouine Sarr.
Oui, lui, dans ce texte-là, il dit deux choses intéressantes. Il y a une partie du texte où il dit « let it go » en anglais, où il demande de laisser aller les choses et de les laisser advenir. Je dirais le texte a une humeur bouddhiste, où on n'attrape pas les choses, on ne s'y accroche pas. Et dans la deuxième partie du texte, il s'interroge sur les raisons de la bonne fortune. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent et d'autres pas? Et il dit que ce n'est pas juste le travail, qu'il y a une dimension autre qui ne relève pas de l'effort et de la volonté humaine. Et dans le texte en Wolof, il dit « si la recherche éclairait le jour les choses, beaucoup de gens affligés ne le seraient pas, ou si le jour éclairait les choses. » Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que dans toutes ces situations, il n'y a pas que les protagonistes. Des fois, il faut faire un pas de côté et laisser les autres forces en jeu. Donc,
il n'y a pas que le visible.
Il n'y a pas que le visible. Donc, il veut qu'il y ait un espace outre maîtrise, outre volonté. Et il est en train de nous dire que les choses participent d'une totalité beaucoup plus grande que ce que nous croyons déployer. Et je trouve que Oasis est un grand philosophe.
Un grand philosophe, et parfois on a l'impression aussi qu'on, quand on vient ici à Dakar, sur le continent, c'est pour apprendre ce genre de choses.
Et puis il y a tout ce que l'on entend lorsqu'on ne comprend pas la langue qu'il utilise. C'est-à-dire la voix d'abord, il a une voix tout à fait extraordinaire à laquelle fait écho l'autre voix, j'imagine, de la chanteuse.
Une voix qui parle à l'âme.
Tout à fait. Et puis toute l'instrumentation, l'orchestration des instruments en soi, qui produit quelque chose de tout à fait inédit.
Quelle que soit la langue, vous avez dit, j'ai envie de m'arrêter aussi un peu sur cette question de la langue, parce que ces ateliers de la pensée réunissent des penseurs afro-africains, de la diaspora, du continent, qui partagent le français comme langue, pas toujours, certains parlent anglais. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres langues. Ici, au Sénégal, il y a le Wolof, il y a le Sérère. Dans toute l'Afrique, il y a énormément d'autres langues. La pensée, justement, a inventé l'imagination. Elle s'inventerait en quelle langue? Dans toutes ces langues-là, peut-être?
Je crois dans toutes ces langues. C'est ce qui se passe d'ores et déjà. C'est-à-dire que la langue française que j'utilise, qu'utilise Félouine, qu'utilise Souleymane Bachir Diagne, et je ne parle même pas des écrivains, c'est déjà une langue multilingue. C'est une langue, un condensé de langues multiples. Et ça, on n'en a pas suffisamment pris conscience. Et il faudrait le faire.
Français comme langue multiple. Hein.
Tout à fait. Et c'est une langue dénationalisée qui a été justement dénationalisée. C'est une langue africaine. Et c'est une langue multilingue.
Parfois, très bien parler, mieux parler sur le continent.
La force du français, en tout cas, puisqu'on parle du français, c'est ce que disait Senghor, bien évidemment. Mais c'est surtout le fait que c'est une langue pliable, flexible, qui se fait parler par la voix d'autres langues. Et donc, c'est une langue multilingue. Or, toutes les langues ne le sont pas.
Pour penser, Félouine Sarr, pour écrire, vous écrivez en français.
Oui, j'ai longtemps eu une interrogation sur est-ce que je pensais dans une langue ou pas, et je l'ai congédié en fait. Parce que je me suis rendu compte que ça ne relevait pas tant de ça. Bien sûr, les structures lexicales, grammaticales, orthographiques obligent à dire ou à ne pas dire. Mais justement, la littérature, c'est ce moment où on ruse avec la langue et où on ruse avec ses... avec son ordonnancement et où on passe à travers.
Où on joue avec.
Et on joue avec. Et je pense que tous les processus de création artistique détricotent les langues pour en faire une langue précise, la langue de l'auteur. Et effectivement, on peut habiter une langue avec sa prosodie, donc on peut replier une langue et on pourra en faire sa propre langue, et quelles que soient les langues en fait. Et donc finalement, c'est juste une question d'appropriation. Comment on se l'approprie et comment on en fait un instrument
au
profit de sa voix singulière. Voilà.
Autour de la question, pourquoi des ateliers de la pensée singulière ici à Dakar? Comment repenser le monde à partir de l'Afrique? Comment le détricoter? Nous sommes en compagnie de l'historien Achille Bembe et de l'écrivain économiste Félouine Sarr. Je vous propose un dernier éclairage. C'est celui d'un historien de l'Afrique médiévale, François-Xavier Fauvel. On l'écoute.
C'est tout à fait vrai que penser le monde à partir de l'Afrique est une chose essentielle. Voilà, est une chose essentielle pour le futur des sciences humaines. On a beaucoup pensé l'Afrique depuis, évidemment, ça tout le monde le sait, depuis l'Occident. On intègre dorénavant l'Afrique dans le champ des sciences humaines, encore qu'avec des frontières très étroites et puis des limites à la recherche très 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 bornées. Mais on n'a pas encore compris la puissance heuristique qui est celle de l'Afrique pour les sciences humaines. Bon. Et en particulier, voilà, l'inventivité sociale, l'inventivité politique. Bon. L'exemplarité de la trajectoire sud-africaine pour notre monde d'aujourd'hui. Je réponds souvent à la question de quel est le modèle, où est le modèle de la démocratie ? Alors, tout le monde dit, voilà, le modèle, il est grec, le modèle, il est ceci, le modèle, il est américain, le modèle, il est français. Pas du tout. Le modèle de la démocratie pour notre société d'aujourd'hui, il est sud-africain. Il est sud-africain. La démocratie utile pour notre époque d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la démocratie qui met ensemble les gens, la démocratie qui réconcilie les gens, la démocratie qui invente un nous collectif, et pas juste un nous particulier, un je, ça, mais un nous. Bon. La fabrique d'un nous particulier, voilà, c'est la démocratie sud-africaine qui l'a inventé. Bon. Et donc la démocratie utile, aujourd'hui, pour nos sociétés, elle est sud-africaine. Elle n'est pas grecque, elle n'est pas américaine, elle n'est pas française, elle est sud-africaine.
Achille Bembe, vous qui enseignez à Johannesburg, à l'université de Johannesburg, j'ai envie de vous faire réagir à cet éclairage de François-Xavier Fauvel. La démocratie utile, elle serait sud-africaine, celle qui pourrait nous inspirer pour aujourd'hui, pour demain.
Disons que elle est incomplète, la démocratie sud-africaine.
Elle est incomplète.
Oui. Elle est très incomplète. Mm. Elle est incomplète parce qu'elle n'a pas encore, est-ce qu'elle le pourra jamais, résolu cette question dont on parlait, de la réparation des liens. Et voilà pourquoi elle fait l'objet en ce moment même de fortes contestations. La question étant de savoir comment la compléter, par quoi la supplémenter, quels ajouts, comment l'ouvrir davantage.
Mais c'est un terreau de réflexion.
Oui. C'est-à-dire que ça demande une réflexion de fond, politique, anthropologique, éthique. Comment partager les richesses produites ensemble, comment faire en sorte qu'on n'en soit pas à un point où les plus riches, au fond, veulent se débarrasser de toute obligation de solidarité, veulent vivre entre eux, comment traiter l'étranger, comment arriver à un point tel que personne, au fond, ne soit étranger en Afrique, que faire des crimes du passé, comment faire mémoire des vies perdues, toutes ces questions restent ouvertes. Et je crois que il est utile que l'on traite de ce cas comme d'un cas de laboratoire plutôt que comme d'un modèle.
Comment inventer justement d'autres modèles sans éviter, on l'a bien compris, les questions qui fâchent, la pensée critique, hein, en critiquant, en continuant de critiquer, mais comment inventer un autre modèle, Félouine Sarr ?
Je voulais d'abord juste réagir sur l'idée de l'extraordinaire inventivité des formes sociales africaines que François-Xavier Fauvel a dit, et je pense qu'il a raison là-dessus, parce que je suis en train de travailler sur écrire les humanités à partir de l'Afrique. Et je pense aussi que les sciences humaines et sociales se reféconderont lorsqu'elles réinvestiront le terreau africain, mais pas à partir d'un regard issu de l'anthropologie coloniale.
Extérieur.
Même le regard extérieur, mais débarrassé des scories du mépris culturel ou de la supériorité civilisationnelle, etc., etc. Alors, on a un atelier qui s'appelle « Repenser les démocraties ». Et je pense qu'en fait, on est vraiment pris dans ce projet-là. Et l'idée, c'est qu'on doit réinventer le politique. La démocratie, fondamentalement,
c'est réinventer le politique.
Oui, on doit le réinventer. C'est comment faire en sorte pour que tout le monde participe à l'intelligence collective. C'est ça l'idée. Et qu'elle bénéficie à tous. Et que l'intelligence collective bénéficie à tous. Donc la démocratie fondamentale et substantielle, c'est ça. Comment la grande majorité participe au pouvoir, comment elle la contrôle et comment elle en tire les bénéfices de manière équitable. Et les formes institutionnelles de cette participation-là, elles sont à inventer. C'est-à-dire que la substance, on est d'accord avec la substance, mais elles sont inventées dans le cadre des régimes d'historicité, des aventures singulières. Et c'est là le grand défi. La démocratie, ce n'est pas la technologie électorale. On l'a vu au Kenya, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est comment on fonde un contrat social qui fait participer le plus grand nombre au bénéfice du plus grand nombre. Les ressources, les intelligences, etc. etc.
Et c'est à réinventer dans le monde entier. Donc il y a des pistes en Afrique.
Il y a énormément de pistes parce que nous avons de l'angle. Voilà,
et elle est en crise partout. Oui. Absolument.
Et donc, du coup, cette histoire de démocratie mineure et majeure, on doit sortir de ce discours-là. Elle est en crise dans un espace qui a qui a vendu le discours au monde que la démocratie était une émergence ex nihilo dans une île grecque à un moment donné. Historiquement, ce n'est pas vrai. Et si on observe les formes de gouvernement dans le monde, il y a énormément de formes de production de l'acte démocratique. Et c'est là où on doit justement renouveler donc la réflexion sur la démocratie, mais en s'attachant à la substance, pas à la forme qu'elle a prise à un moment donné, dans un temps donné et dans une histoire donnée. Et là, sur le continent, on a énormément de ressources pour reprendre ce chantier-là et vraiment aller vers de vraies productions démocratiques qui ne sont pas des élections pour donner un satisfait à quelques observateurs et dire « Ok, nous avons convenu à la forme, donc tout va bien, on replie et on continue nos propres affaires. »
Au fond, vous voulez repenser, on va peut-être en terminer là-dessus, mais vous voulez repenser tout le monde, hein, le monde à venir, notre présent, notre futur. C'est extraordinairement ambitieux et c'est formidable, Felwinsar. Mais c'est ça l'idée, c'est quand même de tout remettre sur la table et d'avancer autrement. Achille,
le fait est que quelque chose arrive à sa fin. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à leur fin. Et donc la question, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Inde, c'est de savoir, alors qu'est-ce qu'on fait ?
On n'a pas le choix.
Où va-t-on en sachant très bien que nous atteignons un nombre de limites, y compris des limites à la possibilité même de la vie biologique.
De notre humanité, la vie de
Tout
notre humanité.
Tout à fait. Hein. Le nouveau régime climatique, c'est de cela qu'il s'agit. De la possibilité même d'une vie biologique ouverte à tous. Et donc, tout doit être pensé en fonction, je dirais, de cette frontière. Ça, c'est la véritable frontière. Ce n'est pas les frontières de Schengen, de
la
je
La vraie
sais pas
frontière,
où.
C'est celle, celle qui Tout menace notre humanité.
La grande frontière, c'est celle-là. Qui demande une grande transformation. Alors la question, c'est de savoir si nous serons à la hauteur de cet appel ou si nous devons abdiquer et donc démissionner par rapport à ce qu'aura été l'aventure humaine sur Terre.
Justement. Avant d'abdiquer, il y a les ateliers de la pensée, ici à Dakar. Hein, nous sommes bien à Dakar. Ah, d'accord à Dakar, absolument. Merci infiniment Achille Bembe et Felwinsar de nous avoir accordé ce moment privilégié hein, de réflexion, d'interrogation, d'inspiration, d'imagination, ici à l'hôtel Jolof, l'un des lieux investis. Donc, toutes les informations sont évidemment en lien sur notre site et je ne saurais trop vous recommander, amis auditeurs et internautes, la lecture de l'ouvrage indispensable, Écrire l'Afrique Monde aux éditions Philippe Ray, ouvrage qui reprend les formidables échanges de la première édition. Demain, direction Kigali au Rwanda, où nous poursuivrons nos rediffusions estivales avec les lauréats du Next Einstein Forum qui s'est déroulé en mars dernier dans la capitale rwandaise. Autour de la question qui sont les plus brillantes têtes chercheuses du continent et de la diaspora. Merci de votre curiosité, amis auditeurs. N'hésitez pas à nous télécharger, à nous podcaster. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des infos.
Paris, 89 FM.